avec Béni soit l'invité. Tu sauras tout sur son actualité. Béni soit-il.
Et vous le savez, tous les jours à 11h, un invité, des invités, plusieurs invités sont avec nous donc dans l'émission Béni soit-il. Aujourd'hui, on va parler avec Florent Attem, maître de conférence à l'Université de la Polynésie française, agrégé externe d'anglais, option linguistique. Carole Attem également sera au téléphone avec, étant maître de conférence à l'Université ESPE de la Polynésie française, agrégé externe de lettres. Ils ont mis en place, ils ont créé un ouvrage avec la participation également de Félix Attem, maître de conférence en anglais, retraité de l'Université de la Polynésie française et responsable des enseignements de linguistique anglaise. Le titre de cet ouvrage est « Éléments pour une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais ». J'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour Carole.
Bonjour Béni, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Florent.
Bonjour Béni, bonjour à tous les auditrices, tous les auditeurs de Radio 1.
Bon, on a eu l'occasion de se croiser dernièrement pour un événement musical, mais aujourd'hui on n'est plus du tout dans la musique. On va parler de ce livre. Moi, j'ai la première question qui nous vient à l'esprit lorsqu'on lit le titre « Éléments pour une étude comparative du tahitien, du français et de l'anglais », c'est est-ce que c'est un nouvel ouvrage pour apprendre à parler le tahitien ?
Bien, Béni, merci de poser la question, parce que justement, on voudrait lever l'ambiguïté. Non, il ne s'agit pas d'une méthode d'apprentissage des langues. Hein. Ce n'est pas les ouvrages pour apprendre le tahitien, le français ou l'anglais, il y en a déjà d'excellents. Nous avons voulu adopter une démarche un petit peu novatrice et effectuer un travail en fait qui n'avait jamais été fait. On en est très content parce que ça nous tenait à cœur. Donc en fait, il s'agit là d'un ouvrage plutôt de recherche en linguistique appliquée. Et bon, il y a une petite partie didactique également, mais essentiellement, il s'agit d'envisager les trois langues dans les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Donc, nous avons voulu mettre le tahitien, qui est notre langue locale, et nous, personnellement, aussi l'une de nos langues natives. Nous avons voulu mettre le tahitien à l'honneur, au centre de cette recherche. Et on a mis le réo tahiti en relation avec les deux autres langues les plus parlées sur le territoire et en Polynésie. Et en fait, notre objectif, il est linguistique, mais aussi quelque part en filigrane. Il est un petit peu d'ordre, je sais pas si on peut dire anthropologique. C'est sûr que ce n'est pas notre spécialité scientifique, mais quand même, il s'agissait de montrer que le tahitien n'est pas un simple dialecte, mais au contraire, il y a une langue avec des structures tout à fait complexes qui sont exactement comparables à celles des autres langues comme le français et l'anglais.
D'accord. Et effectivement, est-ce que ça n'a pas été trop souvent le cas de considérer ces langues comme celles des langues polynésiennes? Et on peut aller jusque dans le triangle polynésien, voire même plus loin, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. D'ailleurs, il y a eu des rencontres qui ont été faites hein, justement en Australie avec des linguistiques. Est-ce que ça n'a pas été trop souvent le cas de catégoriser ces langues-là comme des dialectes alors que ce sont des langues à part entière?
Bien, merci Béni pour toutes ces remarques qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Hein. Au tout début de l'émission, tu disais qu'on s'était vu lors d'un événement musical. Alors je tiens déjà à préciser qu'on a plutôt l'habitude effectivement de s'adresser au public lors de la sortie d'un album ou par un événement, des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier, mais dans notre vrai métier, c'est vrai qu'on est enseignant chercheur à l'Université de la Polynésie française et les activités de recherche font intégralement partie de ce qu'on doit faire au quotidien, de ce que l'on fait de toute façon depuis toujours finalement, puisque je reviens un peu à ce que tu disais, par rapport à ce genre d'événement ou par rapport au sujet de cette conversation aujourd'hui, il s'agit finalement d'analyser toutes les formes d'expression d'un peuple et de façon générale, de façon transversale, de façon universelle, les différentes formes d'expression de l'être humain, tout simplement. Mmh. Et c'est en ce sens que j'entends le terme universalité lorsqu'on parle des fondements profonds de ces schémas qui sous-tendent toute activité de langage. Donc, langage pour parler de la langue. Mais la langue n'est qu'une des facettes, qu'une forme d'expression d'un peuple ou de l'être humain à la base, au départ. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement démontrer que les différentes langues, au même titre d'ailleurs que d'autres formes d'expression, qu'elles soient artistiques, la danse, la musique, l'écriture, la langue orale comme écrite est l'expression de quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui sous-tend Donc ces opérations qui ont lieu dans une situation de discours, une situation de communication, et effectivement, à ce titre, toute langue est la manifestation de ce même fond commun. Donc il n'y a pas lieu de catégoriser les choses, c'est ce qu'on a voulu démontrer dans cet ouvrage.
Est-ce que justement le fait de faire ce genre d'études, ces études linguistiques, vous ont permis à vous qui êtes natif, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure de la Polynésie, de redécouvrir, voire même d'aller de rencontrer, de trouver des nouvelles choses sur notre histoire, notre culture justement ?
Eh bien, tout à fait, Denis, parce que comme tu le disais tout à l'heure, donc la langue tahitienne a souvent été catégorisée comme les autres langues polynésiennes ou les langues indigènes finalement, qui sont peut-être moins connues de certains courants linguistiques. Donc nous, en tant que locuteurs du tahitien, parce que nous avons été élevés dans la langue tahitienne et dans la langue française, c'est sûr que nous avons nous-mêmes découvert tout le potentiel, toute la richesse de notre langue, que peut-être nous ne connaissions pas de façon exhaustive, parce que bon, bien entendu, nous sommes spécialistes d'autres domaines, Florent et moi, ainsi que mon père, qui était, comme tu l'as rappelé, responsable des enseignements de linguistique anglaise avant de prendre sa retraite. Donc moi, je suis en lettres, Florent est en anglais et mon père aussi, mais c'est un projet en fait qui a été initié par mon père il y a très longtemps, lorsqu'il a commencé à enseigner lui-même. Il était d'ailleurs ici le premier enseignant de Réo Tahiti dans le secondaire public, et il a été fortement encouragé par certaines personnes de grande valeur dans ce domaine. Nous pensons à Makoute Vané, notre éminent Makoute Vané, à qui nous avons dédié l'ouvrage, parce qu'il a fortement encouragé mon père à l'époque pour qu'il puisse poursuivre ce genre d'études, ce genre de travail. Et donc Florent et moi, lorsque nous avons bénéficié de la formation, de nos formations respectives, donc moi en lettres et Florent en anglais, nous avons souhaité apporter aussi notre contribution, reprendre ce travail qui avait été mis en suspens pour diverses raisons. Et donc en collaboration, tous les trois, nous avons pu mener à bien cette comparaison. Et effectivement, nous-mêmes, nous avons peut-être mieux pris la mesure de toute la richesse de la langue tahitienne qui vraiment mérite pleinement son appellation, sa classification dans la catégorie des langues à part entière.
Alors, effectivement, hein, Makoute Vané, qui nous a quitté le 21 août 2013, doit certainement, là où il est, être très, très touché de voir que on a envie de donner suite à son ouvrage, à son travail. Moi, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que, justement, lorsqu'on étudie la langue polynésienne, on retrouve des stigmates de tous ces explorateurs, de tous ces gens venus du monde entier en Polynésie? Est-ce que les stigmates de toutes ces langues se sont imprégnés également dans la langue polynésienne pour lui apporter une richesse?
Alors, c'est une question qui est effectivement très intéressante par rapport aussi au domaine d'études qui est le mien, puisque nous avons utilisé pour cette étude un cadre théorique qui est celui d'un éminent linguiste qui s'appelle Antoine Filioli. Antoine Filioli a véritablement un pionnier dans les études de linguistique, et il faut savoir que ce n'était pas un simple linguiste, mais aussi un philologue, un logicien. Il travaillait avec des mathématiciens, des logiciens, pour démontrer ces espèces de schémas qui s'étendent, comme je le disais précédemment, l'activité de langage. Il définissait la linguistique comme une science de la langue, une science du langage, appréhendé dans la diversité des différentes langues naturelles. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Je sais que d'autres chercheurs, à l'échelle, par exemple, au niveau des langues indo-européennes, ont proposé ce genre d'études transversales qui tentaient d'étudier l'histoire des pays, les différentes invasions, l'influence de langues étrangères sur la langue d'un pays, et de traduire ça sur le plan purement linguistique, d'analyser ce genre de choses. Dans notre étude, c'est pas exactement ça qu'on a voulu faire, encore une fois. C'est pour ça que nous invitons vraiment les gens qui s'intéressent à cet ouvrage à le consulter. C'est un peu l'inverse quelque part, puisqu'il s'agit véritablement d'opérer un retour à une forme d'abstraction, c'est-à-dire plutôt qu'aller dans la spécificité, d'étudier certains aspects très spécifiques au niveau de surface, j'ai envie de dire, au niveau de l'expression elle-même, on a voulu faire la démarche inverse, c'est-à-dire retrouver, comme le disait Antoine Cuglioli dans sa théorie des opérations énonciatives, retrouver le cheminement mental qui fait que tel ou tel énonciateur dans telle ou telle situation de communication aboutit à la production de tel ou tel énoncé. Quels sont les marqueurs dans la langue qui sont utilisés? Ça permet donc d'encerner les valeurs, etc. Voilà la démarche qu'on a voulu faire, revenir véritablement à cette forme d'abstraction, aux opérations mentales qui gouvernent l'activité de langage. Et à partir de là, il est assez intéressant, je pense qu'il est assez aisé, on commence à le constater, mais il est assez intéressant de voir que on peut, à partir de ce fond commun, choisir d'aller voir dans telle ou telle langue comment les opérations sont traduites. Au niveau donc de l'expression. Tu parlais tout à l'heure de cet ouvrage que nous avons coécrit. C'est vrai, comme le disait Carole, que nos différentes spécialités ont fait qu'on a été appelés très naturellement à se retrouver avec donc notre père, Carole et moi, en fonction de nos différentes compétences, de nos domaines de spécialisation. Mais nous avons aussi effectué plusieurs missions dans le Pacifique. Nous sommes en contact avec d'éminents chercheurs en Australie, à l'université de Sydney, en Nouvelle-Zélande. En Australie, je pense notamment à une personne qui est la seule linguiste d'origine aborigène à l'université de Sydney, qui a été absolument emballée avec un collègue à elle par notre approche. Donc, on travaille ensemble parce que nos différentes spécialisations nous ont tout naturellement conduits à proposer cette étude. Nous étions finalement complémentaires, donc c'est un heureux hasard, mais cette étude est loin d'être figée, puisque, d'où le titre d'ailleurs, éléments pour une étude comparative, ces éléments peuvent, et nous l'espérons, peuvent être utilisés par d'autres chercheurs, et on est vraiment en train de travailler avec ces linguistes en Australie et en Nouvelle-Zélande, et on continuera d'étendre ça. On a aussi des contacts du côté de Hawaï, donc le travail ne fait que commencer.
Donc ça veut dire qu'il y a d'autres ouvrages prévus, il y a une suite à cet ouvrage?
Oui, tout à fait, Denis, c'est vrai que ce genre de travail, c'est toujours à poursuivre, à prolonger. Donc nous, oui, on a déjà engagé la réflexion sur... bon, là, je vais être un tout petit peu technique, c'est peut-être pas ce qui intéresse le plus les auditeurs, mais dans ce premier volet, en fait, on a travaillé sur deux pôles vraiment qui nous semblaient très importants. La détermination, c'est-à-dire la manière d'affecter un déterminant au groupe nominal, et par ailleurs, les choix relatifs au système verbal. Et bien sûr, là, ça c'est à l'échelle des syntagmes eux-mêmes, mais nous envisageons, et nous avons déjà commencé la réflexion, nous envisageons de prolonger tout cela vers l'effet de subordination, les énoncés complexes, et également d'autres problématiques, parce que bien entendu, les langues sont tellement riches et complexes que nous ne prétendons pas, là, dans ce premier volet, avoir tout traité, loin de là.
J'imagine bien.
Et oui, c'est une bonne nouvelle, parce que comme le disait Florent, le travail est un petit peu extensible à l'infini, avec l'inclusion des autres langues. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de mettre en perspective les autres langues indigènes avec le réo-maori, parce qu'encore une fois, nous sommes quand même assez impliqués dans... ça nous touche de démontrer que les langues indigènes sont... le porteur, en quelque sorte, sont le marqueur d'une identité indigène et qui est l'égal en termes de complexité des opérations mentales, qui est l'égal de toutes les autres grandes langues mondiales.
Et par rapport à ce que disait Carole, je voulais juste rajouter que, de façon très, très pragmatique, en plus des liens qu'on a pu tisser dans le Pacifique déjà avec ces chercheurs des universités voisines, nous avons aussi évidemment des liens d'amitié même avec de grands chercheurs métropolitains. Je pense notamment à l'éminent Claude Delmas, qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage. Et donc, de façon aussi très pragmatique, Carole et moi avons, depuis l'an dernier, été intégrés, nous avons l'honneur de faire partie du jury du CAPES externe dans nos disciplines respectives. Carole en lettres modernes, moi en anglais. Donc, juste après cette période très particulière qu'on a vécue par vidéoconférence, donc puisque les déplacements étaient compromis, j'ai participé pour ma part, par exemple, à tous les travaux d'harmonisation du barème pour une épreuve justement qui impliquait la linguistique anglaise. J'ai participé aux réunions pour voter la barre d'admission cette année. Donc ces travaux sont c'est quelque chose de très important pour nous, puisque après plusieurs années, pratiquement une quinzaine, 14 ans maintenant, 15 ans pratiquement que j'enseigne à l'université, j'ai toujours été dans la formation, la préparation depuis 2014 des candidats locaux à ce concours et à d'autres concours jusqu'à l'agrégation d'anglais de façon plus officieuse. Mais maintenant, nous sommes de l'autre côté de la barrière dans ces jurys, de ces concours nationaux. Donc, on a un point de vue qui est vraiment très, on ne peut plus précis en ce qui concerne les attentes. Et il faut savoir que ce genre d'approche linguistique, c'est actuellement et depuis quelques décennies ce qui fait autorité. Donc c'est en ce sens, pour revenir à ta question précédente, qu'on a voulu valoriser aussi le réo maori. Très concrètement, par exemple, lorsque j'étais moi-même étudiant, dans tout mon parcours, on étudie, pour ma part, par exemple, la langue anglaise dans le cadre de cette approche théorique, et ces ouvrages sont en français. Donc, on manipulait le français et l'anglais. C'est, par exemple, au concours du CAPES d'anglais, ce dont il est question, essayer d'obtenir des compétences équivalentes dans les deux langues. Et quelque part, j'étais un peu chagriné de constater que le réo maori n'avait pas, en quelque sorte, ce même traitement. Donc on a voulu un petit peu...
remettre les choses à leur place.
Inscrire le réo tahiti dans ce cadre théorique. Donc, encore une fois, on invite les gens qui sont intéressés ou qui sont intrigués par cet ouvrage à le consulter, parce qu'il ne s'agit en aucun cas d'une méthode pour apprendre le tahitien. Il en existe, comme l'a dit Carole, énormément et elles sont excellentes. Il ne s'agit pas non plus d'un ouvrage de grammaire tahitienne, de grammaire normative, de grammaire descriptive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on emploie plutôt le terme de linguistique. C'est un cadre théorique qui tente de remonter à ces opérations mentales qui sous-tendent la production de tout énoncé. Donc à partir de là, à partir de ce domaine un peu abstrait, il est assez intéressant de voir si on choisit de se pencher plus précisément sur une langue précise, et bien de constater les possibilités qu'offre cette perspective, ou au contraire, de voir si on se heurte à certaines limites et d'en tirer les conclusions.
Dernière petite question avant de vous laisser, et je vous remercie encore une fois de cet entretien. Pourquoi vous avez cédé les droits au ministère de l'Éducation et de la Culture ?
Écoute, Béni, c'est franchement quelque chose qu'on a fait d'instinct. On n'y a même pas réellement pensé, mais il nous semblait que c'était... c'est vrai que d'habitude, moi, dans mon domaine, je travaille beaucoup sur la littérature française. C'est ma spécialité de doctorat, la littérature française de l'Ancien Régime. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des problématiques qui sont liées directement au territoire. Florent, en civilisation américaine, c'est un petit peu, je pense, la même logique. Donc là, pour cet ouvrage qui concernait les langues indigènes et la langue tahitienne, on s'est dit que modestement, peut-être ça pourrait intéresser de façon très directe les lecteurs en général ici, mais plus spécifiquement les enseignants, les étudiants, les jeunes qui préparent des concours, et puis voilà, beaucoup, c'est un peu dans la perspective de l'enseignement aussi, donc on s'est dit que ça pouvait apporter un petit élément nouveau, un élément nouveau dans le paysage didactique et dans le paysage aussi de la recherche, tout simplement sur les langues. Et je voudrais juste ajouter quelque chose qui me paraît important, parce que je voudrais pas induire en erreur, je voudrais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Florent et moi, nous ne nous prétendons pas spécialistes de la langue tahitienne, loin de là. Nous ne souhaitons pas empiéter sur le domaine de nos collègues qui exercent en la matière, mais pour une fois, avec cette démarche, avec cette approche, on a nos compétences nous ont permis d'établir des ponts, et c'est je pense toute l'originalité là de ce travail. Et on a souhaité, comme d'habitude, que cela puisse se diffuser au maximum, parce que ça c'est un peu notre point de vue personnel. Il nous semble quand même que tout ce qui concerne la culture, les savoirs, l'éducation, il est tout à fait souhaitable que ça se diffuse le plus possible. On n'a pas tellement envisagé notre intérêt personnel là-dedans.
On a envie de vous écouter toute la matinée. Malheureusement, le temps qui m'était imparti vient de s'écouler. Je tiens à vous remercier tous les deux, Florent Athème et Carole Athème, tous deux maîtres de conférences à l'Université de la Polynésie française. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles des prochains projets que vous allez mettre en place. On sera toujours là pour le partager avec nos auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup Béni et très bonne journée à toi et à tout le monde.
Merci Béni, merci à toutes et à tous et prenez soin de vous.
On vous fait de gros bisous et puis tous nos encouragements pour la suite. Au revoir, à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Béni soit-il avec Educa Piscine.
Votre spécialiste de la piscine hors sol sur Tahiti.